Donc bonjour Chomsky.
Hello.
Le projet Princesse Leia remonte à 2018. Comment t'es venu l'idée de faire ce projet-là ?
Alors en fait, il a pris jour en 2018, mais c'est une idée que j'avais depuis bien longtemps, quand je faisais déjà du one man. Donc ça a pratiquement en fait 7-8 ans, cette idée-là. Où je voulais arriver à lier mes deux trucs préférés qui sont essayer de faire marrer les gens et faire de la musique. Donc je cherchais un concept où ça serait à la fois du concert et de l'humour. Et il se trouve que voilà, le one man a pris de la place. J'ai fait mon chemin sur plein de choses et les vidéos YouTube, etc. Et un jour, on a fait la troupe qui s'appelait Les Insolents avec Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré, Dedo et moi. Et il se trouve qu'en rencontrant Dedo, je vois qu'il est vraiment chanteur. Parce que j'avais vu ses vidéos dans le Jamel Comedy Club où il chantonnait comme ça, mais je ne savais pas qu'il savait chanter si bien. Et puis, il se trouve que notre tourneur-diffuseur était, celui qui faisait tourner nos spectacles d'humour, me dit qu'il est batteur de metalcore. Donc bon, je vois que ça commence à sentir le truc où il y a les bonnes rencontres. Et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Les bonnes rencontres se sont mises en place. Et après, on a casté Cléo pour venir faire son personnage. Mais c'est surtout quand j'ai rencontré Dedo que je me suis dit que j'avais le bon partenaire.
D'accord. Et du coup, juste une petite question aussi pour les auditeurs. Pourquoi ce prénom Princesse Leia ?
Alors, Princesse Leia, en fait, on cherchait un peu le nom du spectacle, parce qu'à la base, on l'a vraiment pensé comme un spectacle, pas vraiment comme un groupe. Mais on était dans le tout début et on cherchait d'abord, tu sais, tous les noms parodiques qu'on aurait pu avoir de métal. Donc forcément, dans les trucs, tournaient vachement dans les trucs un peu potaches, cons. Et puis, il y a un soir, il y a Carrie Fisher qui est décédée. Et quand je scrollais un peu sur les réseaux sociaux, les Facebook et les Twitter, ça m'amusait de voir qu'il y a beaucoup de gros métalleux très tatoués, très barbus, qui laissaient des messages de ouin ouin tristesse. Et je me disais, oh là là, quand même, les métalleux, c'est quand même des petits cœurs sensibles. Et ça m'a fait marrer qu'on ait un nom de groupe qui soit celui d'une des meufs les plus célèbres de la galaxie, quoi.
Et du coup, vous avez sorti votre album cette année qui s'appelle L'Histoire sans fond.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui a été le plus dur lors de la création de cet album ?
Le confinement. On avait commencé à créer l'idée. En fait, moi, j'avais conçu un scénario parce que je me disais comment faire pour retranscrire ce qu'il y a dans le spectacle sur un album, parce qu'on voulait pas faire un simple album comme un groupe de rock standard, vu qu'on sur scène c'est vraiment un mélange de sketch et de chansons. Donc moi j'avais commencé à écrire un script qu'on devait travailler tous ensemble un peu, et qui se trouve que c'est arrivé pile au moment du premier confinement. Donc bon, moins facile d'avoir l'énergie de groupe, donc moi je l'ai écrit de mon côté tout seul. Après on s'est fait quelques ping-pong avec Dedo, mais on n'est pas des grands fans des réunions Zoom, on préfère se voir. Surtout en plus pour après faire des chansons et tout ça. Donc ouais, non, la vraie difficulté, ça a été longtemps de pas pouvoir se voir, pas pouvoir se faire des, ce qu'on fonctionne vraiment à l'énergie groupe, aux répètes et tout ça, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de conneries qui sortent. Donc ouais, c'est d'ailleurs, on a dû reporter plusieurs fois l'enregistrement de l'album, parce qu'on devait enregistrer en mai, finalement on l'a fait en juillet, puis après comme il y a eu encore d'autres complications, on a dû à chaque fois des petits décalages, quoi. Donc c'est ça qui était un peu chiant, mais on y est arrivé et c'est ça le principal.
Finalement oui, vous avez réussi à le faire et surtout vous l'avez mis sur un album. Mais la question aussi que je voulais te poser, c'est que vu que c'est un mix entre musique et comédie, pourquoi l'avoir mis sur un album et pas juste le jouer que sur scène ?
C'est en fait, à chaque fois, comme on a eu la chance de faire des scènes assez importantes, parce qu'on a été très vite repéré pour faire le warm-up Hellfest là il y a 2 ans. Nous, on avait juste à peine fait une première tournée de rodage et on s'est très vite à jouer avec des énormes groupes, avec Tagada Jones, Dagobah, Ultra Vomit, Massifteria, enfin voilà. Et puis du coup, on a refait une tournée derrière qui était dans des chouettes salles. Et puis après, le public musique, il aime bien revenir un peu avec un souvenir à la maison et réécouter les chansons. Et c'est vrai qu'on avait mis 2-3 trucs sur... sur YouTube, mais il y avait de plus en plus de gens qui disaient bon bah vous êtes les seuls blancs à pas avoir de CD, c'est pas normal. Donc bon bah ça a cogité un peu, et puis on s'est dit que oui, c'est fallait assumer à fond le côté groupe parodique, et un groupe sans CD, il y a un problème. Donc voilà. Mais après, l'album, c'est une autre histoire que ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de... Ça repose beaucoup quand même sur les blagues, on ne voulait pas que les gens retrouvent exactement la même chose sur un album que sur le spectacle, parce que autant les musiques, c'est sympa de les connaître par cœur, autant les blagues, c'est relou. Donc, l'histoire qu'il y a sur scène n'est pas exactement la même que celle qu'il y a sur l'album. Sur l'album, on est beaucoup plus parti en cacahuète sur un univers heroic fantasy.
Mais en parallèle aussi de ton travail dans Les Princesses Leia, tu es comédien de profession. Tu fais, tu es comédien de doublage. Est-ce que la parcelle entre la musique n'a pas été trop dure ?
Non, parce que la musique, finalement, ça fait très longtemps que j'en fais, mais en amateur éclairé, quoi. J'avais déjà eu des groupes. Dedo, c'est pareil. Ça fait longtemps qu'il fait ses trucs, mais juste pour le plaisir, voilà. Donc non, ça va. C'était pas si logique, si tu veux. C'est qu'on est le vrai problème, c'était surtout qu'on est tous très occupés, parce que je suis comédien, puis je suis aussi scénariste et réalisateur et tout. Donc on a des emplois du temps qui sont assez vénères. Mais après on s'est bien entouré, et dès que tu te dis qu'il faut aller sur scène faire de la zik, bah tu te dégages du temps, et puis tu te remets à jouer de ton instrument beaucoup plus que d'hab. Et puis pour l'album, on s'est entouré de Pierre Danel, qui est un guitariste assez célèbre en France, et qui nous a réalisé l'album. Bon, bah, c'est le gars de, je sais pas si tu connais Kadinja, mais voilà, c'est une pointure dans ce métier-là, et qui nous a poussé à nous améliorer, à travailler l'instrument pour avoir un rendu qui est de la gueule.
Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vois l'après-Covid ?
Pour l'instant, je le vois pas. C'est plus ça l'emmerdant, c'est que... Je ne sais même plus quoi dire, c'est-à-dire que quand les mecs te disent oui, ça va ouvrir mi-mai, tu te dis d'accord, ils ont trouvé un spray, je ne sais pas, qu'on va diffuser dans l'air à des petits sapins, comme on a les voitures qui apparemment font fuir le Covid. Ça a l'air super leur projet. À part de l'espoir, parce qu'on a décalé toutes nos dates à l'automne. On espère qu'enfin à l'automne on pourra reprendre au moins une vie normale, sachant que nous on a une possibilité de jouer nos concerts en format assis, et que quoi qu'il arrive, si on peut le faire, on le fera, parce qu'on préfère, même si c'est pas exactement la même énergie, ça marche quand même, et on préfère jouer coûte que coûte. Après Covid, je le vois comme une espèce de grosse orgie partouzarde avec des enceintes à fond les ballons, quoi. Je le vois plus comme ça. Une sorte d'hystérie collective. En tout cas, c'est ce que je fantasme.
Quels sont les sentiments qu'on a en jouant de la musique et pas en faisant du théâtre, et vice-versa ?
C'est deux sentiments complètement différents. Il y a une espèce de jouissance d'être sur scène qui... moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Mais faire rire, c'est une drogue de faire rire les gens. Mais la communion de la musique, c'est vraiment pas la même chose. Déjà, jouer avec des partenaires, parce que moi aussi, c'est pour ça aussi que je me suis un peu écarté du one man, c'est que j'en avais ras-le-bol d'être tout seul. Donc d'être en communion avec, on est quatre, d'avoir nos énergies. En plus, on est vraiment très poches et des très bons potes. Donc, c'est un plaisir très adolescent, quoi. Et de voir que les gens prennent du bon temps, sautent, dansent, font des pogos, c'est l'esprit de communion sur quelque chose. Et ça, c'est irremplaçable.
Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer la suite avec le groupe ?
La suite, ça serait de surtout reprendre les concerts, parce que là, l'album, je te dis, on a un peu galéré quand même pour le faire exister. On a fait appel à un Kiss Kiss Bang Bang pour finir de le financer. Parce que le nerf de la guerre, c'est que c'est l'argent. Et tant que tu joues pas et tant que tu fais pas des concerts, c'est compliqué de se dire on va relancer des nouveaux trucs et tout ça. Donc l'après, c'est de faire vivre cet album, de jouer, que les gens nous découvrent encore, parce que finalement on a un groupe assez jeune, bizarrement. C'est juste qu'on a une exposition rapide, donc ça, et ça c'est super, mais là maintenant faut, on veut retourner voir les gens dans les villes, on va reprendre le tourbus et puis faire du concert. Après, évidemment, là il y a des petites choses qui arrivent sur YouTube, là les sketchs de l'album ont été mis en dessin par les petits cartoons qui vont sortir là une fois par semaine sur notre chaîne YouTube. Et l'idée, y a des projets de pourquoi pas garder cet aspect podcast de l'album et en faire des formats plus courts. Il y a ça qui est dans les tuyaux, il y a l'idée aussi de pourquoi pas une BD. Et puis, si le Covid nous lâche les basques, il y a déjà une idée d'album 2, ouais.
Si tu pouvais choisir n'importe qui pour intervenir sur scène ou pour justement le futur album qu'on vient d'évoquer ou pour les futurs projets, si tu pouvais choisir n'importe qui, que ce soit pour l'aspect musical ou juste pour l'aspect, on va dire, théâtral, tu choisirais qui ?
C'est deux personnes, mais qu'on fait déjà intervenir de temps en temps quand ils sont dispo. C'est Christophe Lemoine, la voix de Cartman, parce qu'il fait partie de l'album et puis il nous accompagne depuis le début, et quand il vient sur scène faire le con avec nous, c'est toujours un régal. Et musicalement, ça serait de toute manière Pierre Danel, parce que Pierre Danel, c'est un virtuose qui lui prend la musique beaucoup plus au sérieux que nous, et les enregistrements, enfin je sais pas, on a fait des petits making of de l'enregistrement où on voit à quel point parfois on a réussi à le consterner de manière abyssale. Donc ce sera toujours un plaisir de faire venir un type aussi sérieux que Pierre venir faire le débile avec nous, juste pour pourrir son image.
Quelle chanson rêverais-tu de reprendre avec le groupe ?
Bonne question, parce qu'en plus on s'est dit qu'on allait, s'il y a un prochain album, on fera que des compos. On a fait pas mal de reprises sur cet album-là, mais ça tend à devenir que des compos quand c'est Slia. C'est une colle, je sais pas. Là, mon fantasme qu'on joue, mais pas forcément en parodie, c'est de reprendre du Maximum des Hormones sur scène. Si un jour on fait, je pense, une cover en rappel de rappel, juste pour obliger Dedo à chanter en japonais, ça me ferait marrer. Mais tu vas voir, encore une fois, c'est dans le but d'essayer de gâcher l'image de quelqu'un. Donc.
Maintenant, je vais te poser des questions qui s'appellent les questions sur une île déserte.
Très bien.
Si tu pouvais prendre trois films sur une île déserte, ce seraient lesquels ?
Si je pouvais prendre trois films sur une île déserte, il y aurait Lost in Translation, qui est vraiment mon film préféré. Je prendrais un film d'Eric Fantasy, je pense, lequel, là, mon Dieu, c'est complexe. Je ne saurais pas lequel prendre en film d'Eric Fantasy, c'est ouf. C'est dur. C'est dur. Trois films, c'est hardcore. Est-ce qu'on peut considérer que les 10 heures et quelques versions longues du Seigneur des Anneaux, c'est un seul film ou pas ?
Oui.
Bon, allez, pour les réfantaisies, je prendrai celui-là parce qu'au moins j'en ai pour 12 heures. Après, je sais pas. Oh là là, j'aime tellement de films, tellement de trucs différents. Et Lost in Translation pour l'ambiance. En fait, n'importe quel film avec Bill Murray, de toute façon, ça sera très bien. Le Seigneur des Anneaux, je t'ai dit. Et après, soit je prends un truc tellement potache, parce que je pense que je serais un peu triste au bout d'un moment d'être tout seul. Je prendrai un film vraiment pété de merde avec Sacha Baron Cohen, qui s'appelle Grimsby, qui est le dernier film qui m'a fait hurler de rire, et je pense que j'aurais besoin de ça pour rigoler. Parce que c'est bien le cinéma russe, Tarkovsky, etc., mais je pense que sur une île déserte, c'est pas ça qu'il me faudra.
Et maintenant, les trois albums que tu prendrais sur une île déserte ?
Alors, je prendrais un Foo Fighter, je sais pas lequel, mais un Foo Fighter parce que c'est, je suis un fan de Foo Fighter tout simplement. Je prendrais sur une île déserte, pas besoin de prendre des trucs trop calmes parce qu'il suffirait que j'écoute la mer. Je prendrais du Camille Saint-Saëns, tu vois, le Carnaval des animaux, des choses comme ça, parce que ça me plaît bien, ça m'inspire bien. Et sinon, je prendrais de la funk, je prendrais Al Green, je prendrais un best-of d'Al Green.
En regardant les débuts de ton projet justement des Princesses Leia, genre 7 ans en arrière, est-ce que tu aurais pensé que le projet se matérialise un jour sur un CD ?
Pas forcément, non. Je n'ai pas une grosse capacité de projection sur le long terme, mais si j'ai bien appris un truc en faisant ce métier, c'est qu'il fallait surtout pas trop se projeter trop longtemps, trop loin. Il faut vivre vachement au truc présent. Donc, non, j'étais plus... Il y a un moment, je me disais même, bon, bah... Ça, ma vie n'ira pas vers ça, c'est pas grave, je suis quand même content, je fais plein de trucs sympas. Donc non, j'étais plus, au moment où c'est revenu, j'étais plus en train de me dire de lâcher l'affaire si tu veux. Donc non, là tout ce qui est en train de se passer avec Princess Leia, c'est du bonus de vie.
Quels sont tes projets pour cette année 2021?
Alors, ils sont nombreux. Là, je finis d'écrire un long métrage d'animation, ce qui est une adaptation des Légendaires. C'est une BD qui marche plutôt bien. Donc voilà, ça fait un film d'anime, grosse prod et tout. Donc ça, je suis bien content. J'attaque mon premier aussi long métrage signé en tant que scénariste et réalisateur. Je suis actuellement sur ça. Je m'occupe parce que je produis les Princesses Leia aussi avec le tourneur diffuseur. Enfin, il y a toute une équipe, mais ça occupe pas mal son temps. Donc, le plus gros projet, là, ouais, c'est surtout les deux films sur lesquels je suis. Voilà, en plus d'autres trucs, parce que j'écris pas mal de scripts pour de l'animation. Mais ça, c'est pas des trucs perso, quoi.